anthropologique, la société d'Israël, c'est Sarah. Le peuple d'Israël, c'est Abraham. Et le peuple d'Israël est engendré par la société d'Israël, comme une matrice engendre son futur. Non, la société, l'être collectif, en tant que matrice d'engendrement. Le peuple, c'est le produit qui est en train d'être produit. Le père et la mère, enfin, je ne sais pas, c'est clair, à mes yeux. Cette même collectivité, en tant que mère qui engendre son peuple, c'est Sarah, en tant que peuple engendré par sa mère, c'est Abraham. La différence qu'il y a entre Isaac et Abraham, ça vient de Sarah. C'est Sarah qui fait que Isaac est fils d'Abraham. Et je vais vous donner une illustration d'abord et ensuite nous revenons là. C'est lorsque Isaac est né, a passé par toutes ces épreuves, l'histoire suivante c'est il faut le marier. Maintenant Isaac est vraiment Isaac, pour continuer les engendrements, il faut le marier. Entre temps on a appris que Rebecca est née. C'est pourquoi c'est important de savoir qu'il existe quelque part une femme pour Isaac. Ce qu'il faut réussir c'est la rencontre. Et alors là il y a deux obstacles. Abraham convoque Eliezer, c'est la suite de notre récit. Abraham convoque Eliezer et lui dit, voilà, maintenant il faut marier Isaac. Mais je te donne deux consignes. Veille à ce qu'Isaac ne prenne pas de femme du pays de Canaan. Cette identité qui commence avec Abraham est suscitée pour remplacer la situation de Canaan qui a échoué. Si on commence à se mélanger, il n'y a plus ni Canaan ni Israël. Il faut attendre que l'identité Israël soit née pour que le mariage avec la femme de l'étranger soit possible. Tant qu'on est en cours des engendrements, ça sera un interdit absolu. C'est clair. Bon, je pense que c'est clair. Comment Ésaü a été disqualifié? Parce qu'il a pris des femmes de Canaan. Il est sorti de l'histoire d'Israël. Vous avez vu le problème. Bon. Première consigne, qu'Isaac ne prenne pas de femmes de Canaan. Deuxième consigne, ne ramène pas Isaac d'où moi je suis sorti. S'il y a une femme possible pour Isaac, elle ne peut se trouver que de la famille où Abraham est sorti. Mais il ne faut pas qu'Isaac revienne d'où Abraham est sorti. Il y a là, tu vois, une sorte de c'est bouché. Comment on va continuer? Alors là, Eliezer est chargé d'une mission. Va-toi de là d'où moi je suis sorti. Et va voir là-bas s'il y a une femme possible pour Rebecca, pour Isaac, qui sera Rebecca. Mais quelle est la condition? Qu'elle accepte de venir. Qu'elle fasse sa alia, si je veux dire. Vous comprenez? Et ça aussi, c'est... On est suspendu. Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'elle existe déjà. Mais est-ce qu'elle va accepter? Bon, et peut-être qu'elle n'aimera pas Isaac. Et peut-être que cette histoire qu'on lui propose, elle... etc. Vous comprenez le problème? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eliezer va en chemin. Et il se met à prier. Et il dit, mon Dieu, fais que ma mission réussisse. Et comment il dit ça? On s'attendrait à ce qu'il demande à Dieu les signes pour reconnaître cette femme. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il demande, c'est lui qui donne les signes. Voilà ce qu'il demande à Dieu. Si j'arrive quelque part, et que je trouve une femme qui me dise, tu as soif, bois, et donne aussi à boire à tes chameaux, je saurai que c'est celle-là. Fais réussir ma mission. On s'attendrait à toute autre chose dans cette prière. Qu'Eliezer demande à Dieu, je ne sais pas à quoi reconnaître cette femme. Donne-moi les signes pour la reconnaître. Non, il sait très bien comment la reconnaître. Alors je reviens au schéma et vous allez voir, la réponse est très simple. Isaac, c'est l'Amidat Hadin. Pour que Jacob naisse, il faut que sa femme vienne de l'Amidat Hesed. Et qu'est-ce que c'est ça, la source de l'Amidat Hesed? C'est la famille d'Abraham. La famille d'où Abraham est sortie. Donc Eliezer sait quel type de femme il cherche. Et dès qu'il trouve cette femme, dans une civilisation devenue barbare, là où le modèle Pompéi c'est Sodome et Gomorre, et que l'étranger est maudit comme tel, eh bien, il trouve auprès d'un puits une femme qui lui dit, noble étranger, tu as soif, bois, et je vais donner aussi à boire à tes chameaux. Il dit, ben c'est elle. Il y a un mot dans le récit extraordinaire, Vaish Mishtahe. Ça veut dire, Eliezer est devenu fou. Il dit, ça existe. Hein? Donc, ce qu'il fallait, est-ce que c'est clair? L'objet de la prière d'Eliezer était très simple. Je sais quel genre de femme fait qu'elle existe. Fait qu'elle existe, je me charge du reste. C'est d'une certaine manière. Il y a un midrash très profond qui dit que c'était la fin d'Eliezer quand Eliezer a vu Rebecca. Et pourquoi? Parce qu'il est chargé par son maître Abraham de chercher cette femme rare, unique, la femme de vertu de charité, pouvant être l'épouse de l'homme de vertu de rigueur pour engendrer l'homme de vérité. Eliezer rencontre cette femme, Rebecca. Il est tombé amoureux d'elle, il voulait la marier elle, mais il était chargé de mission par son maître. C'est là qu'il a disparu. Oui, il y a le drame d'Eliezer. On pourrait faire une pièce de théâtre extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe avec Eliezer lorsqu'il voit Rebecca? Il voulait la marier pour lui. Enfin, se la marier, je ne sais plus comment on dit en français. Hein? Mais il ne peut pas, parce qu'il est chargé de mission. Hein? Et alors, voilà ce que je voulais mettre en évidence, comme illustration. C'est Rebecca qui va faire que Jacob est possible. Or, Jacob est accompagné du frère jumeau. Parce que Jacob, c'est le fils d'Isaac par Rebecca. Mais Ésaü, eh bien, c'est le fils de Rebecca par Isaac. Qu'est-ce que je dis par là? C'est l'hérédité de Laban qui est derrière. Vous voyez? Vous voyez cette impossibilité. En tant que fils de Rebecca, l'enfant qu'on attend est le petit-fils d'une crapule, okay? Laban. Mais en tant que fils d'Isaac, il est le petit-fils d'un tzaddik, Abraham. Il y a une possibilité. Cet enfant est monstrueux.
Il est à la fois le bien absolu et le mal absolu. On est tous un peu comme ça. Mais ici, il y a le cas exemplaire. Okay? Alors, la stratégie de Dieu est extraordinaire en tant que génétique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée deux jumeaux en séparant les deux forces. Et il les met en jeu dans l'histoire. Arrangez-vous entre eux. Et vous voyez à peu près le problème. Okay? C'est-à-dire, pourquoi quand Rebecca dit « Vimken la mazéanochi » Elle est enceinte, et elle sent que ça s'entrechoque dans ses entrailles. Et alors elle dit « Tout ça, on a prié pour que l'enfant naisse, et qu'est-ce qui se passe ?» Et alors que la Torah lui répond, elle va à la yeshiva de Shem Ve'ever, Dieu lui répond de la manière suivante, c'est parce qu'il y a deux identités contradictoires en toi. Okay? C'était ça l'objet d'ailleurs de la prière d'Isaac. Isaac prie, pourquoi? Pour arracher cet enfant au néant, à l'impossibilité d'être. Il dit, je sais très bien pourquoi c'est bloqué. Ça fait rien, je prends le risque. Donne-lui quand même son enfant. Okay? Vous voyez le problème? Le verset dit que les deux ont prié. Rebecca priait pour qu'Isaac ait un fils. Et Isaac priait pour que Rebecca ait un fils.
Mais la prière n'est pas la même. La prière de Rebecca, on n'y fait pas allusion. On sait qu'elle prie en même temps qu'Isaac. Pourquoi? C'est une prière normale. Isaac mérite un fils. Donne-lui son fils. C'est une prière normale. La prière d'Isaac est difficile. Et c'est pourquoi le texte dit que c'est elle, la prière d'Isaac, qui a été exaucée. Pourquoi? Je sais très bien que cet enfant que je demande, le fils de Rebecca, par sa famille à elle, c'est un monstre. Donne-le-lui quand même, pour que l'histoire continue. On s'arrangera. C'est difficile, mais on va essayer. Vous avez compris le problème. Et de là, de ce risque-là, qu'est-ce qui est apparu? L'autre rivalité, pas celle de l'islam à Israël, celle de la chrétienté à Israël. Vous voyez, ce drame de cette famille d'Israël, c'est épouvantable. Hein? C'est l'engendrement à l'échelle de l'universel qui nous est raconté dans cette famille. Voilà l'exemple que je voulais donner. Comment comprendre mieux, peut-être par Rebecca, que la modification d'identité entre le fils et le père, du moins du père au fils, vient par la mère, vient par la femme, par l'épouse. Et donc, lorsque Isaac a achevé son propre cycle de mutation, il est le Isaac de la Midat Hadin ligotée, Sarah disparaît. Elle a fini de jouer son rôle en tant que Sarah, mais elle revient comme Rebecca. Ben voilà quel est. C'est la même. Ce que dit le Midrash. Il fallait que Rebecca naisse pour que Sarah ait le droit de mourir. Parce que c'est la même.
Sarah est Amidat Adin.
Sarah, c'est la matrice de l'Amidat Adin. Sarah, c'est si vous comprenez bien, en fin de compte, Sarah, c'est la reine Esther à la fin de l'histoire des anges nombreux. Je vais citer ce midrash. C'est-à-dire la culture de Babel. Et c'est de Babel que nous sommes sortis avec la Mishnah. C'est-à-dire le Shulchan Aruch. De l'Égypte, nous sommes sortis avec la Torah. Bon, tout ça c'est très sibyllin, mais ceux qui ont des oreilles entendent. Je ne peux pas dire d'autre. Sarah, c'est la Minatadine. C'est le Shorej de la Minatadine. Emma Banim, Sarah. Sarah, c'est la Mida la plus dure. C'est Abraham qui est la Minata Chesed. Mais quel est le prix de ce couple, si vous voulez, que Sarah est la femme d'Abraham et qu'Abraham est le mari de Sarah. Okay. On est bien une chose. Sans qu'il y ait, nous avons sûrement dû faire allusion à cela, sans qu'il y ait aucune identification à faire à l'échelle individuelle, le principe de la tradition juive, c'est que l'identité féminine, c'est Midat Hadin, et l'identité masculine, c'est Midat Hachesed. Quelles que soient les apparences contraires par le roman courtois. Okay. L'identité féminine est rencontrée comme terrible, surtout au niveau de la mère, et je vais expliquer ça. C'est la Midat Hadin. C'est le père qui est la Midat Hachesed. Et je sais bien que dans la problématique occidentale, l'apparence est exactement le contraire. Nous disons dans la prière, Rachamenu kerachem av albani. On devrait dire Rachamenu kerachem em albani. Est-ce que c'est bien clair ça? Oui, je traduis. On dit à Dieu, pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants, j'attendrai, et pitié de nous comme une mère a pitié de ses enfants. C'est ça, dire qu'une mère n'a pas pitié de ses enfants. Non, je ne parle pas de la mishpachologie. Je parle de ces deux polarités d'identité, je vais expliquer. Voilà, la Gemara dit, Av Merachem, le père a pitié d'eux. Et c'est la pitié d'Abraham qui nous vaut Ishmaël. Vous voyez l'illustration, Av Merachem. Rachamim, ken? Ben oui, ben oui. Ha'em Menachemet, avec un nun. Menachem. C'est-à-dire la mère console. Le père a pitié. Je ne sais pas comment dire ça en français, entendez-vous. Le père est Merachem. La mère est Menachemet. Est-ce que c'est clair ça? C'est toujours la mère qui va intervenir pour donner le critère de la sélection d'identité. Oui. C'est Sarah qui dit non, c'est pas Ishmaël, c'est Isaac. C'est Rebecca qui dit non, c'est pas Esaü, c'est Jacob. Le père lui protège, complaisance, Rahamim. Okay. Abraham ne peut pas voir la différence. Il ne veut pas. Entre Ishmaël et Isaac. C'est Sarah qui la voit. Okay. Et Agar est dans le coup. Si vous lisez bien le texte. Agar sait très bien qui est son fils. Et puis, de la même manière, Isaac ferme les yeux pour ne pas voir qu'il y a une différence entre Esaü et Jacob. Il ferme les yeux là-dessus. C'est Rebecca qui dit de façon impitoyable, hein, c'est parlé. C'est moi qui les ai faits, je sais comment ils sont différents. Hein. Et dire, faites attention à ça, je ne voudrais pas que ce que j'ai dit là crée des scènes de ménage. Hein. Mais il est clair, il est clair que du point de vue de la typologie, hein, la mère est terrible parce que c'est elle qui engendre, okay. Et c'est le père qui vient là pour sauver tout le monde. Je ne sais pas comment dire. Hein? Oui, très bien. Bon, et alors, si on descend dans ce problème, bon, c'est le thème de la mère juive possessive, etc. Et puis ça dépend des communautés, elle est plus ou moins possessive. Mais c'est pas pour rien, si vous voulez, que il y a tout ce thème de la Lydie chez maman, je sais pas comment on dit ça en arabe, mais vous avez compris. Ça existe chez les sporadiques, c'est la même chose. Mais on sait très bien que derrière il y a un principe terrible. Et alors, quelqu'un qui a peur de sa mère, bon, ça c'est un problème pour le médecin. On n'a pas peur de sa mère. Mais il faut comprendre, je pense que c'est clair, mais il faut comprendre que les deux principes d'identité, du père et de la mère, sont, d'après cette typologie, recette c'est le père, digne c'est la mère. Voilà, c'est clair jusque-là ? Bon. Et c'est bien parce que la femme s'est mise à sa digne qu'elle est si aimable lorsqu'elle est aimable. Oui, mais c'est tout, il y a un
entre
elle
même
et l'orphelin. Ah, mais c'est ça. Non, pas du tout. C'est la même question. Tiens. Vous savez. Tiens. Ça veut dire les. Bon, je vais vous dire une chose. Je sais qu'il existe un vocabulaire contemporain pour parler de ces réalités dont nous parlons. Et je voudrais vous mettre en garde d'ailleurs contre des textes qui paraissent à ce sujet et qui utilisent les thèmes bibliques. Vous avez vu avec quel. Solaire fait partie de ce monde-là, mais vous avez vu avec quelle politesse et avec quelle civilité que d'autres n'avaient pas. Et à quelle délicatesse, c'est le mot que je cherchais, Solaire a ligoté sa propre mutatadine. Vous avez remarqué cela. S'il était devant un public habituel à Paris, eh bien, il aurait psychanalysé le problème jusqu'au bout. Bon, il est plein de déjeuners. Il était à côté d'un Baal à Midrash, alors il a laissé sa psychanalyse de côté. En montrant par des petits clins d'œil que ça pouvait être fait. Vous comprenez ? Ça, c'est vraiment la délicatesse française. Et alors, vous voyez que c'est difficile pour un juif d'être français, non ? Ou alors, donc, je trouve que ce vocabulaire existe. Et je suis complètement étranger à ça. Okay ? Pour moi, la Bible, c'est le récit de l'identité d'Israël qui mène à la Torah. Bon, on peut donc utiliser aussi pour des critères psychologiques comment la Bible peut aider le psychiatre à soigner ses malades. C'est pas mon problème. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de doute que. Et au point que j'ai fait oublier de quoi je voulais parler. À quelqu'un. Et voilà ce que je dirais, mais je ne dis pas, mais je vous dis rien pour vous dire que je ne dis pas. C'est que la femme, la mère, éprouvant l'émotion de la matrice, elle est masculine à ce moment-là. Elle est le père à ce moment-là. Elle est Rachamanou. Rachamanou, c'est le sentiment de la matrice, du geste d'engendrement. C'est ce sentiment que la mère éprouve dans la mesure où elle est dans la position virile. Mais j'en dis pas plus. Stop. Je sais pas si vous entendez ou vous entendez. Je suis pour vous dire que cette élaboration-là de vocabulaire, elle n'est pas du tout cachère. Okay? Mais il y a quelque chose qui va dans cet ordre-là. C'est ce que la Kabbalah appelle Yesod de Bina. Bon, quand vous aurez appris 40 ans de Kabbalah, vous comprenez que c'est Yesod de Bina. C'est Zahar bin Keva. Alors, mais en tout cas, le problème est le suivant. C'est que cette émotion de Rachamim, c'est l'émotion, cette vertu de Rachamim, et l'émotion étant corollaire, c'est ceci, il y a une prodigalité de la miséricorde. C'est le fait de multiplier les chances. Rachamim est toujours au pluriel. C'est un terme qui se dit au pluriel. Berichamcha, ça veut dire que quand Dieu a Rachamim pour nous, ça veut dire qu'il nous donne 1000 chances de s'en sortir. Où on voit Rachamim ? C'est un arbre est en fleur. C'est Rachamim. Il y a des milliers de possibilités pour qu'un fruit sorte. L'explosion des bourgeons, c'est Rachamim. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette capacité de richesse, de multiplicité que la matrice a. 1000 chances sont données. Ça, c'est Rachamim. Et alors, vous voyez. Cette racine-là, elle est très mystérieuse dans sa fécondité elle-même, si j'ose dire. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Bon. Mais vous voyez que c'est Homer. Hein? C'est les mêmes lettres. Hein? Et puis c'est les remarques de Varim, les 248 membres du corps masculin, le corps féminin, en ayant 252. C'est un joli ouvrage tout à l'heure. Donc disons qu'il y a 248 organes symboliques, disons, dans le corps, c'est le corps masculin. Le corps féminin, c'est 252. Mais expliquez tout de suite tout ça et après je reviens là. Ça, c'est la grammaire d'Abraham. Abraham, ça fait 248, c'est-à-dire remarque. Vous voyez que Rechem, le Rechem, c'est Abraham. C'est la même grande chose. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi on allume le vendredi soir de lumière. Peu de gens le savent. Pourquoi, vous savez, pourquoi on allume de lumière le vendredi soir? La tradition, c'est que c'était deux veilleuses à l'huile. Hein. On peut aussi faire des bougies, on peut aussi faire deux ampoules électriques. Lumière, c'est lumière. Mais enfin, la tradition la plus traditionnelle, c'est que c'est de la lumière qui vient de l'huile. Bon. Vous avez dû voir ça chez vos grands-parents, mais c'est des veilleuses. C'est pourquoi? Non, ça c'est de la dentelle. Alors vous voyez que des choses aussi importantes, on ne sait pas. Pourquoi on allume deux bougies ce vendredi soir? Où c'est écrit? Non. Ma? Non, pas du tout, c'est une mitzvah. Mais où elle est écrite cette mitzvah? C'est une mitzvah et c'est la femme qui doit les allumer. S'il n'y a pas de femme, c'est l'homme qui les allume. Ma? Qui a dit Zaharon Keva? Oui, mais ça cherche par où? D'où vous sortez? Ça? Oh, vous sortez de l'autobus, mais... Bah. Non. C'est exact aussi. Il faut qu'elle soit accolée, les deux chandeliers soient accolés. Alors, un petit peu... Va plus loin, et qui c'était cette Zaharon Keva Otam, c'est Adam et Chava. C'est l'anniversaire d'Adam et Chava. Vous voyez comment les choses élémentaires, on les oublie. Vous savez, c'est ça. Bon. Et alors, là, dans le... Mais vous savez que, et ça doit être encore le résultat de la mentalité chrétienne, une ingratitude terrible pour Adam et Chava. Vous voyez, c'est ce mythe monstrueux du péché originel. L'humanité entière est ingrate pour le premier ancêtre. Au point que les Juifs eux-mêmes, qui ont gardé le souvenir de gratitude de ce premier être qui a eu le courage d'être un homme, et qui a jamais richon, parce qu'il fallait le faire, oublient que tous les vendredis soirs, c'est l'anniversaire d'Adam et Chava, et c'est pour ça qu'on aligne ces deux véhicules. Vous voyez jusqu'où ça va, l'ingratitude humaine. Ça, c'est une autre chose. Mais je reviens donc à ce que je disais. Voilà ce que dit le Sefer HaTehillim. Et Ner, ça fait combien? Ner, ça veut dire une lumière. Ça fait combien? Je ne sais pas compter ou pas. 250. Alors, deux fois ner, ça fait 500. Il y a ner et ner. Vous voyez? Il y a deux nerots. C'est pourquoi, comme vous avez dit, la halakha est comme ça, il faut les rapprocher, viennent les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que ces 500? C'est 248 plus 252. Ça fait 500. Ah. Voilà. Vous avez retrouvé? Non.
Il y a
un surplus féminin.
Pour ma femme, tu es contente aujourd'hui. Je crois qu'il y a des hommes depuis des années, est-ce que c'est interdit aux hommes?
Non, la mitzvah, c'est que c'est la femme qui doit allumer les lumières. Et s'il n'y a pas de femme, alors l'homme l'allume. Il faut les allumer, même si on est célibataire, mais vous savez, là. Bien. Ah non, ça c'est pour entrer dans les questions de Kabbalah très compliquées. C'est un chiffre kabbaliste. Maintenant, on est tellement familier à ça, il y a 248 membres que je vais d'abord vous ajouter cela. Pour l'identité masculine, l'identité féminine a 4 organes de plus pour l'engendrement. C'est ça. Okay. Le dîme absolu, c'est la stérilité. Eh bien, bien sûr. Le dîme absolu, c'est quoi? Vous vous rappelez, Vaïli? Le dîme absolu, tu ne mérites pas, je prends. Dîme, c'est Tinsum. Et Chesed, c'est Pashtut. Oui. Attendez qu'on se rappelle le sujet que nous avons en cours, c'est la foi d'Abraham. Hein? Ah, un autre sens du mot dîme, là. Vous voulez dire, c'est la différence entre la halakha et la agada. C'est de faire une chose. Oui, oui, ça, dîme. Ici, le mot de dîme a un autre sens. Ça veut dire, on cherche le code, on cherche la règle. La règle est d'accomplissement de la halakha. Que dit le dîme? Ça veut dire, qu'est-ce que dit le code? Okay. Et puis, pendant qu'on étudie comment appliquer cette mitzvah, selon le din, c'est-à-dire selon le code. Et alors, on éclaire le sens de la mitzvah par tel ou tel midrash, tel ou tel agada. C'est pas pour rien que je continue à expliquer. C'est pas pour rien, si vous voulez, que la Gemara est saupoudrée de midrash, de agada, etc. Hein? C'est le ta'am de la mitzvah. Mais lorsque nous disons la midat adin, ça veut dire tout à fait autre chose. La midat adin, ça veut dire, c'est la vertu de la rigueur stricte du jugement formel absolu. Le mot de din dans l'étude de la Gemara a un autre sens, beaucoup, beaucoup plus nuancé. Ça veut dire, je cherche, qu'est-ce qu'il faut faire d'après la loi? Elle disait, mais non, qu'est-ce que vous voulez demander? Donnez-moi un exemple que je comprenne mieux. Continuez, je vois l'exemple, oui. Oui. Ah, c'est une autre catégorie. C'est la chumra. Oui. On dit, on fera un peu moins. C'est ça, très bien. Écoutez, c'est-à-dire que là, il y a celle de l'existence de la chumra et la kula. On peut appliquer la même règle législative, soit de façon dure, aggravée, chumra. C'est pas évident. Ça dépend du sujet. Parfois, je vais parler de ça en parenthèse, mais n'oublions pas la foi d'Abraham. On a encore quand même suffisamment de temps. Je veux dire, il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui dit Reverat le mitzvah kala ke bachamura. Reverat le mitzvah kala ke bachamura. C'est-à-dire, soit empressé à une mitzvah kala, une mitzvah légère, comme à une mitzvah lourde, hamura. Qu'est-ce que c'est ça, une mitzvah légère et une mitzvah lourde? Vous entendez en hébreu? Soit empressé à une mitzvah qui te paraît légère, c'est moi qui ajoute qui te paraît plus approché, comme à une mitzvah qui te paraît exigeante. Il y a ici une réaction psychologique, un enseignement de pédagogie religieuse important. Lorsqu'une mitzvah me paraît exigeante, alors, j'ai tendance à être plus scrupuleux avec elle, parce que je me dis, c'est grave. Hamour. Okay? Mais lorsqu'une mitzvah me paraît légère, une mitzvah facile à faire, alors je risque d'être, mesdames, comme on dit ça en français, négligent. Okay? Vous voyez? Alors la Mishnah vient nous dire ici, Everat, le mitzvah kala keba hamoura. Soit empressé à une petite mitzvah pas difficile à faire, par exemple, le matin on se lave les mains, mitzvah kala. Okay? Donc, le matin dès qu'on se réveille, il faut se laver les mains. Et mitzvah kala. Mitzvah hamura, je vois quelqu'un qui souffre, il faut que je m'arrange à ce qu'il souffre. Ça, c'est hamour. Hein? C'est grave. Alors, je pourrais croire que le salaire, deuxième explication, le salaire de la mitzvah kala, c'est pas grave, qu'est-ce que j'aurais perdu, mais que le salaire de la mitzvah hamoura, c'est grave. Alors, c'est pourquoi la Mishnah nous dit Heve, rat, le mitzvah kala, keva hamoura, shei, ata, yodéar, matan, scharan, shemizo. Parce que tu connais pas le salaire des mitzvahs. Hein? Quelqu'un peut gagner son paradis, comme on dit, avec une toute petite mitzvah, parce que ça peut lui manquer, et alors que l'autre malgré des, peut le perdre malgré des grosses mitzvahs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est l'explication classique. Mais, de manière plus profonde, on enseigne de cette manière. Après l'élaboration législative dans la Gemara, on va arriver à décider pour telle ou telle mitzvah que la règle sera comme la Kula ou comme la Khumra. Que la règle sera qu'il faut alléger la loi, ou que la règle sera au contraire qu'il faut aggraver la loi. Hein? Alors tu pourrais croire que puisque les rabbins du Talmud ont décidé d'alléger la loi, c'était pas une mitzvah importante. Non. Même une mitzvah Kula, elle est très importante. Vous avez compris quel... C'est ça. Ça dépend donc des sujets. Oui, ça dépend des sujets. Bon, nous refermons cette parenthèse et on arrive au problème de la foi d'Abraham. Mais il n'y a pas d'autres questions que...
Oui, à propos de Niel.
Ken.
Est-ce qu'il sait se situer par Abraham et Yitzhak? Parce que malgré les deux recommandations que lui fait Abraham en ce qui concerne, Rebecca,
oui.
il a un espoir, il a une...
Oui.
La tentation, oui, de proposer sa fille pour Yitzhak. Et c'est visible d'après, c'est plus qu'un Mefarech, qui dit que lorsque la famille de Rebecca tente de s'opposer, tente de. Elle met à quel, je sais plus comment dire.
S'opposer.
Enfin, de s'opposer.
D'empêcher.
Au départ de Rivka, oui. Eh bien, lui, il dit. Eh bien, il a cet espoir de pouvoir donner sa fille à Yitzhak.
Oui. Alors, quel est le problème?
Bien, on a l'impression que Eliezer, d'abord, essaie de ne pas tenir compte des demandations d'Abraham, et puis qu'il a quand même...
Donc, tu rattaches à ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est pour ça.
Eliezer voulait Rebecca, pour lui. Mm-hmm. Alors, c'est une des stratégies par lesquelles il pourrait arranger ça comme ça.
Mais il se connaît, il sait très bien que ses descendants...
Mais oui, écoutez, regardez, toutes ces tendances culturelles dans le monde qui se prennent pour Israël, ils se connaissent, ils savent bien qu'ils ne sont pas Israël, mais ils se prennent quand même. Tous ces midrashim nous expliquent la réalité. C'est le même problème. Bien. Alors écoutez, voilà, prenez le verset. Je vais d'abord vous donner le verset, ensuite les deux références. Ce que dit Rashi, ce que dit Nachman. Et quel est le sujet? Nous voulons comprendre... Quel est le mérite de cette foi d'Abraham? Qu'Abraham a eu un tel mérite de croire en ce que Dieu lui dit lorsqu'il lui dit tu auras une descendance, tu seras fécond. Et pas encore une fois l'identité Ishmaël, ou la suite par la gnose de Damas d'Eliezer. Sur une petite parenthèse, très sérieusement, les poskim disent que Damas fait partie des rêves d'Israël parce que ça fait partie de l'héritage d'Abraham. Alors, on va avoir un problème avec l'ONU. Hein? Bien. Vous avez vu que par deux fois, dans les dernières guerres, l'armée israélienne a failli entrer à Damas. Et au Caire aussi, d'ailleurs. Bon, je referme la parenthèse. J'ai rien dit. Alors, Non, mais je me rappelle que le rabbi de Lubavitch n'était pas très content qu'on se soit arrêté à quelques kilomètres de Damas et du Caire, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça, à l'époque. Il a dit qu'il fallait rentrer dedans, mais... Donc. Bien, à notre question, je vous donne d'abord la référence du verset, c'est « Ve'emin b'Hashem v'chevalot tzedaka » dans une minute, et je vous dis cela. C'est donc dans Brit Ben Abetarim, c'est après la guerre de Sodome et Gomorrhe. On n'est pas habitué à un livre, hein, c'est difficile. Je crois que j'y suis. Voilà, c'est le verset 6 du chapitre 15 de la Genèse, dans l'Ech Lecha. Ve'emin b'Hashem, b'Hashem ve'alot, c'est laquelle je vous mets le verset au haut. Tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Oui, j'avais pas... Voilà. Vehemin Bachem. Et en fin de compte, Abraham a eu foi en Hachem, comme on a expliqué. Deuxième partie du verset, Vayarche Beha, l'autre Daka. Qui est le sujet et qui est du verbe? Et il a imputé en justice. Qui a imputé à qui? Il y a deux hypothèses de lecture. Nous allons voir d'abord Rashi, le Haklal. Alors je vous dis Rashi. Voilà comment nous dit Rashi pour comprendre le verset. הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולזדקה על האמונה שהאמין בו. Il faut lire comme ça. Et Abraham eut foi en Dieu, et Dieu a considéré cette foi d'Abraham comme un mérite, le fait d'avoir eu foi en lui. Donc d'après Rashi, le sujet de Vayar Shevea, c'est Dieu, et Dieu a imputé en mérite, en tzedaka. Rashi ajoute l'isrout velitzdaka en mérite et en justification le fait d'avoir cru en Dieu. Narmani doit s'opposer à cette lecture. Bon, je vous cite ça d'abord pour le contenu de l'enseignement, mais surtout pour le problème de méthode qui a été évoqué hier, lorsqu'il y a deux commentateurs qui s'opposent, qui ne sont pas en contradiction, vous comprenez? Ce qui fait que lorsqu'ils sont en contradiction, c'est qu'ils ne sont pas commentateurs. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc maintenant, Nachmani dit ceci. D'abord, il cite Rashi, Pirash Rashi, Akadosh Baruch Hu, Hashav Lot Tzedaka Uzchut Ala Emuna She'emin Bo. C'est Dieu qui a imputé à Abraham en mérite la foi qu'Abraham a eue. Et Nachmani dit ceci, Veni Mevin Ma Uzchut Azot. Je ne comprends pas de qu'est-ce que c'est ce mérite. Vous suivez Nachmani? Qu'est-ce que c'est ce mérite? Dieu se révèle à Abraham pour lui promettre quelque chose, Abraham croit, et tu me dis, toi, Rashi, qu'il y a un mérite. Vous voyez qu'il faut rentrer dans le problème pour comprendre de quoi Rashi parlait. Hein? Regardez l'humour de Nachmani. Et moi, je ne comprends pas que c'est ce mérite. L'amaloyamin beloke emun. Pourquoi Abraham ne croirait pas en un Dieu en qui on peut croire? Un Dieu fidèle, un Dieu sincère. Dieu promet, toi, tu ne crois pas? Toi, Abraham, de qui on parle? On parle d'Abraham. Avez-vous un avis vers Asmo? Abraham est lui-même prophète, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et alors, le texte dit, crois, et toi, Rashi, tu me dis, alors ça, c'est un mérite de croire quand Dieu parle. Où est ce mérite? Dit Nachmani. C'est clair? Je suis. Veloish el veichazeb. Est-ce que Abraham ne sait pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Dieu lui a promis. Mais c'est Dieu qui lui a promis. Où est le mérite de croire quand Dieu promet? J'ouvre une petite parenthèse. Ne croyez pas que c'est un problème simple. C'est un mérite de croire en Dieu premier. Pourquoi? Regardez tout ce que Dieu nous a promis, et ça fait 2000 ans que ça dure. Où est la difficulté? Non, ça, c'est Dieu qui promet et ça ne se réalise pas. C'est ça qu'il faut découvrir. Et donc c'est bien un mérite de croire, surtout quand c'est Dieu qui promet, puisque ça ne se réalise pas. Et je referme une parenthèse, c'est une autre dimension du problème. Ce n'est pas comme ça que Nachmanides explique. Mais je voulais vous mettre en évidence la difficulté, c'est un grand mérite pour Israël d'avoir cru. Pourquoi? Bien sûr que c'est Dieu qui a promis, mais ça ne se réalise pas. Et on croit quand même. C'est là qu'elle mérite. Pendant 2000 ans, on a dit, on a cru, on sera sauvé. Et bien, 2000 ans, c'est long. C'est un mérite colossal de transmettre cette foi en la promesse. Je pense que c'est clair. Bon. Deuxième dimension possible, ce mérite de croire en ce que Dieu promet, c'est aussi le mérite de croire que je suis bien celui à qui Dieu a parlé, de ne pas douter de moi. C'est une autre dimension, mais c'est très relié. Je pense que c'est clair. Il faut avoir du courage pour se dire ça me concerne. Non, c'est une toute autre histoire. Et il y en a, ne doute pas, au contraire, il sait très bien que Dieu va faire ce qu'il veut faire. Seulement, comme c'est mauvais pour Israël, que les gens de Ninive se repentent et pas les gens de Jérusalem, alors il ne veut pas sauver les gens de Ninive parce que ça condamnerait son peuple. C'est une toute autre histoire. Et celui qui est allé jusqu'à croire qu'il fallait faire ça, égorger son fils bien-aimé, Véchar Nisionot, et celui qui a traversé toutes les autres épreuves, Erloya Amin, Bipsora Torah, comment ne croirait-il pas dans une bonne nouvelle pareille sur un fils? Alors Armani nous dit, de quoi tu parles, toi, Rashi? Mais ce qui est exact à mes yeux, c'est-à-dire voilà comment il faut comprendre, qui est amer, voilà comment il faut dire, chez Emin Bachel, Abraham a cru en Dieu, et lui, Abraham, a pensé, qui que c'est par la charité de Dieu, que Dieu lui donnera, la bonté de Dieu, que Dieu lui donnera un enfant de toutes les façons, même s'il ne le mérite pas. Et alors le verset a une toute autre lecture. Et Abraham crut en Dieu, va achever à l'autre Sedaka, et Abraham a imputé cette promesse que Dieu lui fait comme un cadeau que Dieu lui fait, pas comme quelque chose que lui, Abraham, mérite. Je continue. L'obétikas Abraham ou Bisrao, que cela ne viendra pas par le mérite et en salaire d'un mérite d'Abraham lui-même. Bien que précédemment, Dieu avait dit d'autre part à Abraham, ton salaire sera très grand, c'est-à-dire tu mérites. Abraham ici a compris que cette promesse que Dieu lui fait, c'est un don gratuit qu'il n'a pas le mérité, parce qu'il n'a pas suffisamment de mérite pour ça. Okay? C'est une toute autre lecture du verset. Mais quel est le problème de... Attendez, je vois si on continue. Non, c'est l'essentiel. Quel est le problème de Nachmani? Pourquoi s'oppose-t-il à la lecture de Rashi? Alors, et réfléchissons bien à cela. Nous avons d'abord une grande règle. C'est toujours le texte le plus ancien qui a autorité sur le texte le plus nouveau. C'est clair. Comprenez pourquoi. Il s'agit d'une tradition. Nachmani sait très bien que Rashi vient avant. Et d'ailleurs, Rashi a des arrières. Il a des sources. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Nachmanide aurait pu simplement nous dire son commentaire du verset. Tiens, citer Rashi et à dire il ne faut pas lire comme Rashi. J'ajoute dans l'analyse, ce qu'il faut comprendre, c'est les deux choses. C'est Rashi qui a raison, mais Nachmanide a des raisons pour lesquelles il ne faut pas lire comme Rashi. Et je vous expliquer pourquoi. Quel problème il y a là? Il y a un conflit théologique entre le judaïsme et le christianisme. Nachmani, qui a été mêlé aux controverses judéo-chrétiennes, entend dans Rashi la thèse chrétienne. Et je dirais que Rashi a raison. Je dirais pourquoi Rashi a raison. Mais qu'il ne faut pas lire comme lui. Est-ce que vous suivez? Je ne veux pas aller trop vite, parce que c'est un peu compliqué. Non, ce n'est pas compliqué d'ailleurs, c'est très clair. Qu'est-ce que nous dit Rashi? C'est la foi qui le mérite. C'est clair. Il a cru, c'est ça son mérite. Qu'est-ce que nous dit le christianisme? C'est la foi qui sauve. Alors Nachmanide dit à Rashi, tu ne peux pas lire le verset comme ça. Il faut le lire tout à fait autrement. Il faut lire le verset que Abraham a cru en Dieu parce que il a considéré que Dieu lui promet quelque chose, quel que soit son mérite. Parce que c'est le mérite qu'il faut obtenir. Et là, il y a un cas particulier, c'est que Abraham est assuré que même s'il ne mérite pas, la promesse de Dieu s'accomplira. Mais pas que c'est la foi qu'il mérite, comme tu dis toi, Rashi. Alors, je vais vous dire, la réponse est très simple. Rashi nous lit le verset au niveau de l'histoire d'Abraham. Nachmanide veut que nous lisions le verset au niveau de l'histoire d'Israël après Moïse. Bien. Abraham, c'était un goy en train de devenir juif. Et c'est une foi colossale. Et c'est le mérite de la foi. Est-ce que c'est clair? Lorsque quelqu'un qui n'est pas d'Israël, et Abraham n'est pas encore, lorsque quelqu'un n'est pas d'Israël croit que c'est possible d'être sauvé de la nature, c'est un mérite colossal. Et donc c'est Rashi qui a raison. C'est le fait d'avoir cru qu'est le mérite d'Abraham, parce que c'est ça, sa transformation en Israël. Mais maintenant, nous sommes les descendants de cela, nous avons des preuves que tout ça c'est vrai. Vous comprenez ce que je dis? Pour nous, c'est la pratique de la Torah qui est le mérite, et pas la foi. Parce que la foi en nous, pour nous, nous avons entendu l'Armani, quel mérite de la foi? Nous avons le mérite de croire, nous, Israël. C'est pas notre problème de croire, nous savons. Quand on sait, on n'a plus à croire. Il n'y a plus de mérite de croire. Pourquoi nous savons? Parce que l'expérience de l'histoire nous oblige à savoir. Un juif contemporain qui n'arrive pas à voir que son histoire est, que l'histoire d'Israël est miraculeuse, c'est qu'il est crétin, c'est tout. Vous m'excusez le terme, mais c'est qu'il ne connaît pas son histoire. C'est qu'il est ignorant. C'est qu'il n'est pas, en bonne santé humaine. Celui qui ne perçoit pas que les promesses de Dieu s'accomplissent, puisque nous sommes vivants, chaque fois que je vois un juif, je sais que je vois un miracle vivant. Hein? Alors, où est le mérite pour un juif de croire? L'histoire a prouvé que c'est vrai. Que quel que soit le déchaînement des forces hostiles, Israël est inassassinable. Ce que Dieu a dit à Israël dans la Bible, c'est vrai. Nous sommes les témoins trois.